Bonjour chers auditeurs, chères auditrices de Bac FM. Je vous propose de faire une petite pause dans votre playlist pop-rock préférée, de reposer les oreilles pour faire un peu de philo. Avec l'hiver, on assiste au retour du Père Noël. Avec le mois de juin, c'est le retour de l'épreuve de philosophie du baccalauréat et les correcteurs ne feront pas de cadeaux. Alors que vous soyez lycéen ou que vous ne le soyez plus depuis longtemps, nous allons tout de suite poser un problème philosophique et disserter pour ce troisième et dernier temps des émissions Bac Philo. La notion centrale ou les notions centrales, le devoir, la liberté, la morale. Le sujet, agir par devoir, est-ce nécessairement bien agir ? Un sujet qui porte sur l'évaluation morale de nos choix, de nos actions. Pour philosopher aujourd'hui, nous avons fait appel à Monsieur Paul Millot. Bonjour Paul.
Bonjour Clément.
Paul, qui est professeur de philosophie à Raoul Follereau et à Alain Colas, ou je ne sais pas dans quel sens, dans les deux établissements en tout cas. Mais Paul n'est pas venu seul, il est venu avec du renfort, il est bien entouré. Nous avons en effet le plaisir d'accueillir trois lycéennes qui ont le bac en ligne de mire. J'ai nommé Dorcas, bonjour.
Bonjour.
Avista.
Bonjour.
Et Esmanour.
Bonjour.
Alors rentrons sans plus tarder dans l'analyse du sujet. Agir par devoir, est-ce nécessairement bien agir ? Juste avant, petite question à toutes les trois. Est-ce que à une semaine et demie du bac de philo, à une semaine du bac de philo, même un peu moins, à quelques jours, est-ce que ça fait peur ? Comment vous appréhendez cette épreuve ?
Moi, j'aimerais dire que c'est sûr que ça fait peur un peu, puisque c'est une épreuve qui va déterminer notre passage aux études supérieures. Mais évidemment, si on s'organise bien et qu'on travaille régulièrement, je pense que c'est moins stressant.
On rappelle effectivement que c'est un coefficient 8, donc c'est pas négligeable. Puis, ouais, Dorcas ?
En réalité, moi, le bac de philo, c'est l'épreuve qui me fait le moins peur sur toutes les autres épreuves, parce que j'ai l'impression qu'on a quand même le moyen de s'en sortir avec le sujet, même ceux qui ont des difficultés, parce que certains sujets peuvent être un peu abstraits et on peut finir par trouver une connexion avec quelque chose qui nous est peut-être arrivé dans notre vie ou qu'on a vu dans un film ou quelque part, qui peut nous permettre de nous en sortir toujours.
Donc, relier le sujet à quelque chose d'un peu de pratique,
oui.
Et donc faire apparaître immédiatement des enjeux.
Oui.
Ça te semble évident, parce que c'est peut-être pas aussi net pour tous les élèves de voir le côté assez pratique ou concret du sujet.
C'est vrai, je ne sais pas pour les autres si c'est pareil que moi, mais je pense que pour tout le monde c'est comme ça, parce que les spécialités, parfois il y a beaucoup plus de choses à apprendre, c'est un petit peu plus dur.
Alors professeur Millot, oui. D'un point de vue méthodologique, et puis on pourra demander aussi à tes élèves, à part prendre la fuite, que faut-il faire lorsqu'on découvre le sujet de dissertation ?
Eh bien, si prendre la fuite n'est vraiment pas possible, si on est obligé d'attaquer le sujet et de l'affronter pendant 4 heures, ce qui est toujours par ailleurs, je le rappelle aux élèves, une épreuve exigeante, hein, parce que c'est quand même long, et puis c'est quelque chose qui suppose de travailler sur de l'abstraction, sur des définitions. Donc c'est quand même une épreuve qui, par elle-même, peut être éprouvante, mais il faut surmonter cela. Et en fait, le sujet, il est ce qu'il est, on ne le choisit pas, on affronte ce qui nous est soumis. Bon. Donc là, en l'occurrence, le sujet nous demande si agir par devoir, c'est nécessairement bien agir. Alors, comme Dorcas l'avait dit, effectivement, là, c'est un sujet moral, donc qui est, semble-t-il, directement en lien avec des problématiques qu'on peut rencontrer dans l'expérience, dans la vie de tous les jours. Mais bon, c'est que si spontanément ce genre de rapport avec des exemples de la vie peuvent aider à saisir une problématique, ça n'aide pas forcément à la construire. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même avoir un certain nombre de techniques méthodologiques pour pouvoir s'en sortir devant n'importe quel sujet, y compris les plus difficiles, les plus secs. Bon. Et en l'occurrence, bien, on ne peut pas de toute façon rédiger une introduction de dissertation sans analyse des termes. Bon. Alors analyse des termes, c'est à la fois les définir. Ça, généralement, les élèves le comprennent bien. Mais c'est aussi essayer de les déployer. Mmh. Bon, et ça, généralement, c'est l'étape qui manque un peu plus. Donc, par exemple, agir par devoir, donc, qui est un élément quand même important du sujet, eh bien, c'est agir parce que le devoir l'exige. Bon, je vais prendre comme objet de volonté le devoir, ce qu'exige de moi le devoir. Mmh. Donc, le devoir, c'est un impératif qui s'impose à nous sous l'effet d'une contrainte. Je dois faire X ou Y. Et on peut déjà noter, donc ça, vous voyez, c'est pas simplement la définition, mais c'est dans l'analyse, que le sujet parle du devoir, de manière assez générale, mais qu'en fait, les devoirs sont extrêmement divers. Bon. Par exemple, les devoirs moraux, politiques, religieux, etc.
On peut être un peu perdu quand on est élève, on ne sait pas par quel...
Bah oui, mais alors ça, c'est le brouillon, justement. Le brouillon, ce n'est pas grave si on est perdu. Au contraire, c'est un temps qui peut être plus ou moins long. En tout cas, c'est un temps qu'il faut prendre. Et il faut accepter que, justement, parfois, il n'y a rien qui nous vient. Et puis, d'un coup, vont surgir des idées. Et en fait, il faut justement qu'on soit avec une page blanche devant soi, un stylo à la main et noter tout ça. La mise en forme, elle viendra après.
On reprend juste après sur l'analyse des termes, mais justement, quelle est, excusez la manière dont je pose la question, mais quel est votre rapport au brouillon? Est-ce que vous prenez vraiment le temps de travailler au brouillon? Vous y consacrez combien de temps? Comment vous le structurez? Est-ce que vous faites des colonnes avec des arguments de chaque côté? Comment faites-vous pratiquement? Est-ce que vous auriez une astuce, quelque chose qui s'est révélé payant pendant l'année que vous pourriez conseiller à vos camarades?
Bah moi, déjà, je conseillerais de reprendre les termes du sujet, de le réécrire au brouillon un peu plus gros pour les avoir de manière visuelle et du coup plus se confronter au sujet. Et une fois qu'on est avec le sujet devant nous, de bien réfléchir à tous les termes du sujet, etc., de trouver les définitions. Et moi, ce que j'aime bien faire après, c'est de prendre une feuille pour chaque partie. J'aime bien rédiger d'abord mon introduction et après faire la conclusion directement. Parce que si on commence à rédiger l'introduction et après faire des grandes parties, bah, on a tendance à s'éloigner du sujet et peut-être pour la rédaction de la conclusion, bah, on peut faire justement un hors-sujet à la fin de notre travail et ne pas répondre à la question. Mmh. Donc justement, faire la conclusion dès le début, ça permet de garder toujours le fil et d'éviter les hors-sujets potentiels.
Ne jamais perdre le sujet de vue et pour ça, commencer par bien l'écrire en gros. Mmh. Oui, Dorcas, oui, tu veux rajouter quelque chose?
Oui, je voulais rajouter que beaucoup de fois, moi aussi, j'ai hésité à prendre du temps pour le brouillon parce qu'on a peur qu'en 4 heures, on n'ait pas le temps. Mais je pense que la meilleure décision que j'ai pu prendre avant une épreuve, c'est de vraiment passer beaucoup de temps sur le brouillon. Pas vraiment non plus plus d'une heure, on va dire, mais de passer le plus de temps possible. Parce que quand on commence à rédiger en fait, le plus possible, on va dire même des mots-clés, ça nous permet en fait, quand on est en train de rédiger directement sur la copie, bah, de nous retrouver très facilement. Et moi, je me suis énormément redirigée vers mon brouillon pour continuer ma trame, continuer à écrire. Et je pense que si on passe le temps qu'on sait qu'on a besoin de passer sur le brouillon, on peut rédiger plus rapidement.
C'est pas du tout du temps de perdu, oui. Et effectivement, avec la fatigue, on peut des fois perdre des idées. On est bien content de les avoir inscrits quelque part, écrits quelque part, au brouillon. Si on reprend l'analyse du sujet en s'orientant progressivement vers la problématisation...
Eh bien, si on reprend l'analyse du sujet, bah, maintenant qu'on a constaté cette diversité de devoirs, bah, ça, on le garde au brouillon, ça peut être très utile après pour problématiser ou même après comme élément pour le plan. Mais on peut bien souligner que le sujet dit bien agir par devoir. Bon. Donc en fait, par devoir, ça suppose en fait la question du motif par lequel ou en vue duquel je fais telle ou telle action. Donc en l'occurrence, le sujet demande si j'agis donc de la bonne manière, si je n'agis que parce que le devoir l'exige. Mmh. Donc par exemple, on voit bien que si jamais mon devoir c'est justement de faire la vaisselle, eh bien c'est bien différent de le faire parce que c'est mon devoir de le faire ou parce que j'ai peur de la punition de mes parents si je ne fais pas la vaisselle. Alors, maintenant qu'on a un peu épuisé cet agir par devoir, on peut aller vers le bien agir. Et donc là, c'est plutôt en lien avec la morale, parce qu'il est bien question du bien. Donc ça, vous voyez, encore être attentif aux mots du sujet, mais vraiment que du sujet lui-même, pour en tirer justement des liens et voir, essayer de voir les notions de l'année qui peuvent être comprises dans ce sujet. Donc là, effectivement, il est question du devoir, mais aussi peut-être de la justice ici. On verra qu'il sera aussi question de la liberté. Donc vraiment ne jamais cloisonner le sujet, toujours laisser au brouillon le champ à toutes les idées et laisser venir toutes les idées qu'on a pu avoir et acquérir pendant son année de préparation. Et donc, bah, si agir en respect d'une norme morale, donc bien agir, c'est en fait respecter la moralité, le sujet demande si, donc dès lors que je fais mon devoir, je suis nécessairement moral, si je fais nécessairement la bonne chose à faire.
Donc là, on a au fond une reformulation du sujet.
Absolument.
Plus qu'une problématisation.
Tout à fait. Ouais. Là, on l'a reformulé, on l'a mieux compris. Bon. Et en fait, on se rend bien compte que si c'est bien le cas, c'est-à-dire qu'en fait, quel que soit le devoir que j'accomplis, pourvu que je veuille uniquement faire mon devoir, ben en fait, je serai quelqu'un de moral, je ferai la bonne chose. Or, on voit bien, ben là, on rejoint la remarque de Dorcas du départ, effectivement, ça colle pas. Bon, on voit bien qu'il y a bien des fois où on peut faire son devoir et ne pas agir de la bonne façon. Bon, si on veut être extrême, on peut prendre un fonctionnaire nazi qui fait bien son devoir d'organiser la Shoah. Est-ce que vraiment, en faisant bien son devoir de fonctionnaire, il est moral? Évidemment non. Bon, et bien pourtant, le sujet le dit bien. Est-ce nécessairement bien agir? Donc ce serait toujours le cas, ça ne pourrait pas être autrement. Donc là, voilà. En fait, clairement, à ce stade, on a déjà, en quelque sorte, la problématique qui est présente. Il faut juste la formuler, la reformuler comme il faut dans son esprit et ensuite bien la rédiger. Faire son devoir, ça semble être une condition pour le bien agir, voire même la seule. Bon, et en même temps, on voit bien que ça ne suffit pas parce qu'il se pourrait que faire son devoir puisse quand même nous porter à faire des choses qui soient mauvaises. Bon. Donc voilà, l'introduction semble être ici achevée. Donc maintenant, va venir l'étape plus difficile du plan.
Donc, on a problématisé, Paul a problématisé. Est-ce que c'est un terme qui vous faisait peur, problématique, en début d'année en philosophie, et comment vous avez réussi un peu à domestiquer ce travail de problématisation et ce terme? Ouais, Avista?
Moi, j'aimerais dire que moi, en début d'année, la problématique me faisait assez peur, puisque ce n'est pas forcément la méthodologie qu'on a appris dans les précédentes années du lycée. Une problématique en HGSP n'a pas la même définition qu'en philosophie. Et je trouve ça assez dur quand on vient de se jeter en terminale dans cette matière. C'est dur de parfois voir le problème justement et voir ce qui ne va pas dans la question posée. Mais après, je pense qu'en révisant bien le cours, finalement, on y arrive.
Ouais. Est-ce que quelqu'un du coup est-ce que l'une d'entre vous pourrait donner une définition de la problématique? C'est quoi au fond problématiser?
Je pense que problématiser, c'est relever une tension dans le sujet, non? Il me semble une question qu'on se pose, qui découle de la question du sujet. On voit le sujet, quelle question en fait on se pose réellement derrière le sujet? Enfin, c'est ça que je me demande avant de formuler ma problématique. Je me pose cette question.
Et de peut-être percevoir le présupposé implicite du sujet pour justement le mettre en question, en montrer la limite. Alors, ce qui peut être aussi difficile avec un sujet de ce type-là, tu as parlé de part-devoir et tu as pris au fond le part-devoir et tu as donné des exemples de devoirs qui sont vraiment très, très variés. Est-ce que dès l'introduction, il faut réduire un petit peu ce qu'on entend par devoir ou au contraire, non, il ne faut pas trop réduire et il faut garder une compréhension la plus large possible de ce que ça peut impliquer?
Ça, malheureusement, c'est l'art délicat et subtil de la dissertation qui prend beaucoup de temps. Maintenant, c'est un peu du flair. En principe, il ne faut jamais trop restreindre le sujet. Il faut toujours partir du principe que si le sujet est vaste, alors il est vaste, il faut le traiter dans sa généralité, dans sa complexité, et en fait, c'est pas le rôle de l'introduction de trop réduire le sens des mots, bien au contraire, il faut s'installer dans cette polysémie, il faut s'installer dans cette diversité pour avoir le plus de leviers possibles de problématisation, et ensuite ne pas se fermer trop de portes pour le plan. Parce que généralement, les élèves qui échouent à faire une bonne dissertation sont ceux qui ont une vision trop restreinte, trop étroite du sujet, et en fait s'enferment dans une vision trop limitée, où ils laissent de côté des aspects entiers du sujet. Donc, on pardonnera toujours en tant que correcteur une introduction un peu fourre-tout. En fait, on a l'impression que tout semble présent, qu'il n'y a pas eu peut-être assez d'élagage. Bon. Mais en tout cas, on ne pardonnera jamais à une copie qui a laissé de côté un aspect du sujet. Voilà. Parce que vous aurez toujours le loisir dans le plan de resserrer le propos. De toute façon, vous n'aurez pas le choix pour faire des thèses. Mais en introduction, voilà, c'est vraiment, faut mieux faire un inventaire complet, exhaustif, que de vouloir trop...
Bon, on garde tout du coup. C'est le devoir que donne la mère à son fils. Tu dois faire la vaisselle. C'est le devoir que le nazi peut recevoir de sa hiérarchie. Et puis, c'est tu ne dois pas mentir ou c'est des commandements. D'accord. Pour l'instant, on garde tout. Alors, on va partir sur la première thèse. Est-ce que, Paul, tu peux nous indiquer cette première thèse?
Alors, moi, j'aurais proposé que bien agir implique d'agir par devoir. Voilà, tout simplement, en fait, partir de ce présupposé du sujet qui semble en fait aller de soi, qu'on ne voit pas comment on peut bien agir si on ne fait pas son devoir, si on ne fait pas ce qu'on doit faire. Bon.
Alors, et que ce serait non seulement une condition nécessaire, mais en plus... suffisante.
Tout à fait. C'est qu'au fond, là, on est vraiment bateau. De toute façon, pour les premières thèses, il faut pas forcément partir de quelque chose qui serait extrêmement subtil. Il faut au contraire s'installer dans la réponse la plus spontanée qu'on ferait par rapport à cette question qui nous est posée. Bon. Alors après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être subtil et intelligent dans la manière de la défendre, mais en tout cas, dans le propos, il faut savoir être spontané. Et donc là, on prend au fond l'opinion la plus courante, celle qui viendrait à peu près à tout le monde. Et donc là, ensuite, sur le brouillon, Moi, ce que je conseillerais à nos auditeurs, c'est justement de la même façon qu'en introduction, ils ont laissé venir les définitions, ils ont fait les trouver des exemples, etc. Pour le plan, bien mettre grand 1, grand 2, grand 3, prévoir deux sous-parties par partie, donc des arguments, et d'écrire petit a, petit b, et ensuite de faire ce travail, au fond, d'écriture, où voilà, on trouve des titres qui soient solides, qui soient bien pensés, avec à chaque fois en essayant de trouver une bonne référence, un bon exemple, peut-être des définitions, peut-être des repères philosophiques, et faire vraiment prendre ce temps de construire un brouillon de manière exhaustive. Et ce, pour ensuite pouvoir le rédiger sereinement pendant les deux heures et demie qui resteront, parce que généralement on passe une heure et demie au brouillon.
Est-ce que ça, Dorcas, Avista ou Esmanour, est-ce que c'est quelque chose qui vous a posé difficulté ou qui vous pose difficulté, le fait de devoir commencer par défendre la thèse du sens commun, qui est peut-être l'opinion que vous ne partagez pas, vous dites mais c'est cliché, mais c'est un préjugé, alors que vous avez peut-être envie directement d'aller vers la thèse qui vous semble la plus juste, la meilleure?
Moi personnellement, je dirais que non, puisque la thèse qui est défendue par tous ou qui semble la plus évidente est souvent la plus facile à défendre, puisque c'est évident, comme vous l'avez dit, même si parfois je ne suis pas d'accord avec la première thèse, tout de même je pense qu'il est plus facile de trouver des exemples, des auteurs qu'on a pu voir en classe, qu'on pourrait utiliser dans cette première thèse. Donc moi, en général, je suis d'accord avec M. Millau, je vais plutôt me diriger vers la thèse la plus évidente comme la première partie.
Vous n'avez pas la tentation de montrer tout de suite que vous êtes intelligente, que vous êtes plus intelligente que le sens commun, le lieu commun, et de partir sur quelque chose de fort, d'original. Oui, Dorcas.
En réalité, on nous a toujours appris à aller de la vie générale à la vie, à un avis un peu plus personnel ou un peu plus pertinent, un peu plus poussé. Donc c'est pour ça que généralement, on pense toujours à partir d'un avis général, puis après à développer un avis contraire.
D'accord, donc il y a besoin de tous les temps, de toutes les étapes dans une réflexion. Je vous propose, avant d'argumenter un peu plus cette première partie, de prendre le temps donc de faire une petite pause. Nous voici lancés dans notre réflexion. On garde l'œil sur la montre pour finir à l'heure, comme l'a dit Dorcas, sans trop presser le pas. Mais un petit moment pour souffler ne fait pas de mal. On écoute un morceau de musique et on se retrouve tout de suite après.
Something's kinda off. I'm starting to feel triggered, like a flame burning on a fuse. You and me were doing good, but now we gotta fall out. You can choose to receive, you can choose to ignore. I will not send for you, so I will not hesitate to put you back in your place. That's a snake bitch move right there. What do you mean, what do I mean? Full time fancy, cut you down to the one. You can choose to receive, or you can choose to ignore. I will not send for you, so I will not hesitate to put you back in your place. I'm
Agir par devoir, est-ce nécessairement bien agir? Voici la question sur laquelle Paul Millot et ses élèves Dorcas Avista et Esmanour sont en train de disserter. Nous avons donc indiqué pour l'instant la première partie. Il s'agit d'argumenter un petit peu plus. Est-ce que Paul, tu peux t'atteler à cette tâche?
Oui, tout à fait. Alors, pour cette première partie, donc, qui est encore une fois la thèse défendue par le sens commun, ne veut donc pas dire qu'elle est simpliste. Bon, parce que au contraire, on pense quelque chose communément parce que c'est quelque chose qui paraît très solide, parce que ça paraît au contraire bien attesté. Donc en fait, il y a un fondement qui est quand même là, même si évidemment avec plus d'analyse, on s'empêtre dans des difficultés, ce qui impose d'aller plus loin, d'aller à des positions plus nuancées. Mais encore une fois, il ne faut pas présenter une thèse en disant qu'elle est bête, etc. Parce qu'au contraire, il faut lui donner le plus de force possible de façon à rendre un peu dramatique la transition, justement, on doit l'abandonner vers une thèse nouvelle. Bon. Alors, pour le travail d'argumentation, évidemment, les arguments doivent soutenir la thèse, puisqu'une thèse, c'est jamais qu'une affirmation qui ne vaut rien en elle-même, elle ne vaut que parce qu'elle repose sur des arguments qui viennent la soutenir. Donc là, en l'occurrence, en titre de A, j'aurais mis « Seules les actions faites par devoir sont morales bon. ». Donc là, pour cet argument, qui est somme toute assez attendu, qui serait assez classique pour cette thèse, on va chercher un texte qui est tout aussi classique, c'est le texte de Kant, donc extrait des fondements de la métaphysique des mœurs, avec ce fameux exemple du marchand. Donc Kant fait une distinction ici entre agir par devoir, donc ça tombe bien, c'est vraiment le mot, la formulation même du sujet, et conforme au devoir. Bon. Donc qu'est-ce qu'une action faite par devoir? C'est une action qui n'est faite uniquement parce que le devoir l'exige, tandis qu'une action conforme au devoir, eh bien, c'est une action qui a l'apparence du devoir, mais qui est faite par intérêt. Ou en tout cas, dans laquelle la volonté, elle, n'est pas pure, n'est pas bonne. Bon. Donc, par exemple, un marchand qui fait bien son métier, bon, ça, les filles pourraient en attester, on en a discuté longuement, un marchand qui fait bien son métier, qui est honnête, qui est souriant, etc., bah, il a toute l'apparence de celui qui fait bien son devoir de marchand, donc il semblerait agir par devoir, être moral, donc, pour ainsi dire, mais en fait, en réalité, il peut le faire aussi par intérêt, pour attirer la clientèle chez lui, pour se démarquer du boulanger d'à côté, qui lui est beaucoup moins sympa. Donc est-ce que cet homme-là, il peut être immoral s'il a des intentions qui sont non pures? Donc on voit bien que là, Kant prend très au sérieux le rapprochement entre agir par devoir, parce que donc, le devoir l'exige, et la moralité. L'un implique toujours l'autre. C'est bien parce que j'agis par devoir que je suis moral. Parce que dès que je n'agis plus par devoir, ou qu'il y a un soupçon que je n'agisse pas complètement par devoir, je ne peux pas être immoral. J'ai une volonté qui n'est pas pure.
Alors, comment sait-on aussi quels sont nos devoirs?
Ah, ben ça, justement, ben là, tu me permets de faire la transition, parce qu'on dit cela en argument A. Bon. Ben alors, la question qui se pose, c'est mais comment être sûr et comment savoir qu'on agisse bien par devoir? Ben ça, typiquement, c'est quelque chose que je dis souvent aux élèves. Ils ont tendance à comprendre assez vite qu'en fait, les arguments, c'est assez quantitatif, il faut en faire au moins deux, que généralement, ils ne sont pas forcément obligés de se répondre l'un l'autre, qu'en tout cas, ils doivent aller dans le même sens, et que, en fait, par accumulation, la thèse paraît plus vraie, qu'elle a plus d'arguments pour la soutenir, en tout cas, les arguments paraissent plus solides. Et ensuite, ils font une transition vers une nouvelle thèse. Mais un bon moyen de gagner des points, ou en tout cas, d'avoir, je pense, le bon regard du correcteur, c'est de faire une petite transition, mais attention, pas séparée, vraiment à la fin du paragraphe d'argumentation, qui, en fait, rend nécessaire l'argument d'après. En fait, essayer de lier ces arguments entre eux, donc en fait, de faire une réelle argumentation. Voilà. Donc là, en l'occurrence, la question que tu m'as posée serait exactement la question qu'on poserait à la fin de ce paragraphe. On aurait mobilisé Kant pour ensuite aller chercher les conditions de possibilité de l'action faite par devoir, qu'on va essayer d'établir. Donc ça, vous, par exemple, les filles, quand vous devez faire plusieurs arguments, comment vous raisonnez, justement, pour les construire, pour les penser?
Moi, je dirais que c'est exactement comme vous l'avez dit. Je pense qu'il est important de relier les deux arguments et de ne pas trop les séparer parce que ça divise un peu l'argumentation si le premier argument n'a aucun rapport avec le deuxième argument. Donc je pense que c'est assez compliqué à faire quand on n'a pas tout le cours en tête et quand c'est un sujet qui mélange plusieurs notions. Mais je pense que c'est, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est le brouillon qui nous permet de vraiment relier nos arguments et c'est assez dur, c'est vrai, mais je pense que si on prend le temps de réfléchir en dehors du cadre très très scolaire, très court, et qu'on permet notre réflexion de s'épanouir dans le brouillon, on peut y arriver.
parce que peut-être un peu spontanément, il s'agit d'agir par devoir, le devoir me serait donné de manière extérieure, c'est le professeur, c'est le juge, c'est le politique, c'est le prêtre, qui vont me dire, mes parents qui vont me dire quels sont mes devoirs, et au fond, lorsque j'agis par devoir, ça serait peut-être pas justement par devoir que j'agis, mais c'est par peur de déplaire aux parents, etc.
Alors justement, là, Clément, tu sembles mentionner le devoir comme contrainte, c'est-à-dire comme quelque chose qui s'appliquerait à nous de l'extérieur avec violence, avec force, et que, auquel on devrait donc se soumettre, par lequel on serait peut-être déterminé donc, à répondre. Mais effectivement, pour Kant, c'est pas du tout cela, agir par devoir, c'est au contraire un acte dans lequel on s'oblige à faire ceci ou cela, donc c'est en fait en réalité un acte de liberté. Alors, comment c'est possible? Comment faire mon devoir pourrait-il être un acte de liberté? Puisque là, on doit réviser le bac, pourtant ça paraît toujours être une contrainte, quelque chose d'extérieur. On ne le ferait pas si on n'avait pas justement cette pression-là. Eh bien, parce que pour Kant, ce qui compte, c'est en fait l'impératif catégorique. Bon, alors qu'est-ce que c'est que l'impératif catégorique? Bon, pour le comprendre, il faut déjà mentionner le fait que quand on agit, de manière générale, on agit toujours en vue d'une maxime. En fait, une maxime, c'est une règle d'action que l'on se formule pour soi-même. Par exemple, je vais manger 5 fruits et légumes par jour. Voilà, c'est la maxime que je me donne, je pourrais m'en donner une autre, en l'occurrence c'est celle que je me donne. Mais on l'a bien compris, ces maximes elles peuvent être très diverses, je pourrais aussi me dire que j'irai battre mon voisin chaque fois qu'il jouera de la musique trop fort le soir à partir de 17h. Bon. On voit bien que dans un cas ça paraît plutôt louable, dans l'autre c'est pas tout à fait moral. Alors justement l'impératif catégorique, bah, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est le fait de prendre ma maxime d'action et je vais faire comme si c'était une loi universelle. Donc en fait, c'est un vrai tamis dans lequel on lance nos maximes et on voit si elles résistent ou pas à cette épreuve. Et donc, si on prend un exemple de maxime, par exemple, qu'on connaît tous, hein, parce qu'on l'a tous fait, bah, par exemple, je vais mentir pour me tirer d'embarras. Voilà. Là, je sens qu'en fait, un petit mensonge, ça me permettrait d'éviter une punition ou d'éviter beaucoup de soucis. Bah, je vais mentir.
C'était ce à quoi vous pensiez, Dorcas, tout à l'heure, en début d'émission, lorsque vous pensiez au sujet, ah, on voit tout de suite, c'est concret.
Ben voilà, mais là, ouais, là, c'est incarné.
Ça faisait remonter des souvenirs.
Et donc, bah, si jamais je me permets ça, bah, est-ce que pour autant c'est moral de le faire? Est-ce que vraiment là, en ce sens, eh bien, je ferais une bonne chose que de le faire? Eh bien non, parce qu'on voit bien que si on en fait une loi universelle, si tout le monde a le droit de mentir, bah, en fait, le mensonge ne peut plus fonctionner, puisque plus personne ne croirait en la parole de quiconque. Bon. Donc en l'occurrence, ce faisant, mais est-ce que je suis libre quand même? Si du coup j'obéis à ce devoir donc, qui est de ne pas mentir, de toujours dire la vérité, ce que j'ai pu me révéler à moi-même en faisant cet impératif catégorique, cette universalisation de la maxime, eh bien en fait techniquement oui, parce que alors je ne suis déterminé à rien. Alors comment le comprendre? Bah, quand je fais des maximes, en fait c'est toujours avec mon intérêt. En fait, je veux toujours répondre à mon intérêt, à mon utilité. Je vise une conséquence qui serait bonne pour moi ou j'évite une conséquence qui serait néfaste. Donc en fait, en ce sens, c'est là où je suis déterminé. Effectivement, c'est là où je ne suis pas libre. Alors que quand je suis ma raison, puisque c'est bien la raison qui me permet d'accéder à cette loi universelle, c'est bien c'est elle qui me permet d'universaliser cette maxime, ben je suis autonome. Je me donne à moi-même une loi, en fait. Je crée moi-même une loi par ma raison que je vais ensuite suivre, à laquelle je vais obéir. Donc ce faisant, je suis autonome, donc je suis libre.
Donc on a cette distinction hétéronomie, autonomie. Est-ce qu'il est possible de réussir à avoir une très bonne note à ce sujet de dissertation si on ne connaît pas Kant, si on est complètement étranger à la philosophie morale de Kant?
Eh bien,
on peut s'en sortir?
En théorie, c'est possible. Bon, dans les faits, compliqué. Alors, c'est ça, c'est toujours un peu la difficulté. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, c'est une matière comme les autres qui suppose aussi des connaissances comme les autres. Alors, il y a des sujets qui sont plus fléchés, effectivement, vers des grandes thèses classiques, même si, effectivement, en droit, on n'est pas censé, normalement, attendre quelque chose bien d'un élève de terminale, en particulier sur un sujet donné. Bon. Mais évidemment que, face à ce sujet, ne serait-ce que quand il y a agir par devoir, eh bien, tout correcteur de philosophie aura en tête ce texte de Kant, et il se dira qu'au fond, une grande majorité, voire une écrasante majorité de ses collègues auront vu ça avec ses élèves. Donc, c'est délicat. Donc effectivement, vous, les élèves, vous êtes un peu obligés d'essayer d'avoir en tête ces grands textes, ces grands classiques, pour pouvoir en fait vous en sortir sur à peu près tous les sujets qui puissent ensuite vous être
Kant
soumis.
Kant doit être la priorité.
Oui, mais Kant, c'est la loi.
Dans les révisions.
Kant, c'est la loi. Et nul n'est censé ignorer la loi, comme vous le savez.
Alors, demandons à nos élèves de TG3 du lycée Raoul Follereau de montrer les limites de la première thèse avant de passer à la deuxième thèse. Qu'est-ce qui fait difficulté potentiellement dans cette première idée, au fond, qu'il suffirait, ou seule l'action faite par devoir serait morale? si vous pouvez critiquer Kant.
Moi, j'aimerais montrer justement cette limite, la limite de cette première thèse en utilisant un exemple. C'est que, imaginons que nous sommes pendant la Seconde Guerre mondiale et que nous cachons un juif chez nous et que la police vient toquer chez nous. Et est-ce qu'on devrait forcément dire la vérité que, en effet, on cache un ami juif chez nous alors que cela pourrait conduire à sa mort? Donc cela montre que agir par devoir moral, comme le dit Kant, de toujours dire la vérité,
consistera ici à dénoncer.
Oui. Donc le devoir moral a bien des limites parce que Kant ne réfléchit pas aux conséquences du devoir moral.
D'accord. Donc on tient uniquement compte de l'intention, de ce qui détermine la volonté. On ne tient pas compte des conséquences. Et puis moi j'aurais peut-être une autre critique aussi. C'est au fond, est-ce que l'intention, ça, c'est visible, c'est palpable? Comment connaître exactement les intentions qui président à l'action?
Eh bien oui, mais justement, c'est que Kant lui-même, à la suite de ce texte sur le marchand, dira la chose suivante: on n'est jamais sûr qu'il n'y ait jamais eu la moindre action morale sur Terre. Bon, donc au fond, déjà soi-même, c'est compliqué, parce que même quand on connaît notre devoir, est-ce qu'on ne le suit pas confusément en vue d'un intérêt, on ne peut pas trop le savoir, c'est toujours un peu mêlé, c'est toujours un peu impur. Et puis par ailleurs, chez les autres, c'est encore pire. On voit bien que les sourires de façade, l'hypocrisie, c'est un peu la règle, donc on ne peut jamais totalement être sûr des intentions des gens. Puis on pourrait aussi citer Charles Péguy qui disait « la morale kantienne a les mains propres parce qu'en fait elle n'a pas de mains ». Bon, elle est tellement exigeante, elle est tellement universelle qu'en fait elle ne s'applique plus à rien, on ne sait plus dans quel contexte l'utiliser, mais bon, en même temps, ce n'est pas ce qu'elle visait. Mais c'est une critique légitime qui a été faite, et d'ailleurs c'est là-dessus qu'on miserait pour faire cette transition. Alors, les transitions, c'est le point... je dirais le nerf de la guerre de la dissertation. Bon. C'est ce qui est généralement négligé, ou en tout cas qui est fait, mais maladroitement par les élèves, et ça vous coûte quand même beaucoup de clarté, et aussi ça vous empêche de bien déployer votre argumentation. La transition, c'est certes d'abord rappeler ce qu'on a fait, ça aide aussi à votre correcteur à bien suivre votre propos, parce que bon, après, quand on a 110 copies à corriger sur une dizaine de jours, au bout d'un moment, on a le cerveau qui n'est plus très frais. Donc c'est toujours bien d'avoir un élève qui, un peu académiquement, nous rappelle les étapes de sa pensée de manière un peu simpliste. Mais c'est aussi, ça c'est quelque chose qui n'est pas assez fait, c'est pointer une difficulté de la thèse qu'on vient de soutenir. Une difficulté vraiment majeure, quelque chose qui vraiment ne va pas, ou peut-être qu'un aspect du sujet qui a été laissé de côté par cette thèse, qui a été oublié alors même qu'on l'avait vu dans l'introduction, potentiellement. Donc là, ça ferait du lien dans votre propos. Bon. Et là, une fois que cette difficulté est soulevée, eh bien, en fait, il suffit d'annoncer la thèse suivante qui va venir y répondre. Donc soulagement.
Alors Avista, vous avez parlé des conséquences, il faut tenir compte des conséquences. Ce serait ça l'idée centrale pour débuter la deuxième partie? Ce serait ça l'axe?
Oui, je pense qu'il faudrait justement utiliser, contrer l'idéologie de Kant qui est, comme l'a dit Monsieur Millot, trop exigeante, et contrer avec les faits, les conséquences dans la vraie vie.
Alors, comme le temps passe et que notre émission court à sa fin, est-ce que, Paul, tu peux donner les arguments vraiment principaux de cette deuxième partie?
Eh bien, moi, j'aurais en fait rappelé la querelle avec Benjamin Constant. Donc, en fait, dire qu'au fond, cette loi morale, si elle est vraie, parce qu'il n'en doute pas, si elle doit être appliquée telle qu'elle au cas particulier, elle doit faire l'objet de principes intermédiaires. Au fond, il faut pouvoir savoir l'adapter au cas particulier sous nos yeux. Donc, en l'occurrence, Avista, vous avez rappelé ce cas un peu funeste de la Gestapo ou de la police qui vient justement chercher un juif chez quelqu'un, elle lui demande s'il le cache bien. Eh bien, est-ce que ce ne serait pas moral, en l'occurrence, de lui mentir? Constant dit évidemment si, mais du coup, il faut un principe intermédiaire. Comment on passe de la loi morale qui me dit « je dois toujours dire la vérité » ou « je ne dois pas mentir » à « je dois mentir à cet homme-là » Eh bien, c'est de dire qu'au fond, quelqu'un qui a de mauvaises intentions, quelqu'un qui manifestement veut en tuer un autre, eh bien, il n'a pas le droit à la vérité. Voilà, c'est ça le principe matériel qui permet de désobéir à cette loi morale dans ce cas particulier, et donc d'être moral. Voilà. Mmh. Justement, j'agis ici pas totalement par devoir, mais j'agis comme il faut. J'agis de la bonne manière. Bon. Donc ça, c'était le premier argument. Et puis le deuxième, c'est de dire qu'au fond, on rencontre des dilemmes moraux dans notre vie qui fait qu'en fait, on ne peut jamais avoir une morale comme ça qui fonctionnerait dans tous les cas, qui nous permet de prendre à coup sûr la bonne décision. Donc je pense notamment au dilemme du tramway, à tous ces phénomènes-là, où de fait, on voit bien qu'on ne peut pas juste suivre une règle ou un principe pour agir, ça ne suffirait pas.
Donc ça impliquerait que si on agit toujours de telle sorte que les conséquences de nos actes maximisent le bien-être collectif, on ne pourrait pas non plus être sûr qu'on a bien agi. Le conséquentialisme a aussi ses limites.
Bah alors là, Clément, si tu me demandes de trancher définitivement entre les morales déontologiques et conséquentialistes en 30 secondes, je crois que tu me prêtes des super pouvoirs que je n'ai pas. Mais oui, en effet, de toute façon, c'est... Vous voyez, la philosophie n'a pas affaire à des thèses définitives, à des vérités qui seraient là une fois pour toutes. C'est des conflits, c'est des débats d'idées. La dissertation doit épouser ce débat-là. Ce qui ne veut pas dire que ce qu'on a défendu et dépassé avant est faux. Ça veut juste dire que là, dans la discussion, eh bien en fait, il y a des limites qu'on a soulevées qui nous font aller plus loin. Et au fond, c'est ça, philosopher.
Alors, il y a cette musique, quand on fait de la philosophie, qu'il doit y avoir trois parties, que c'est thèse, antithèse, synthèse. Comment vous appréhendez-vous cela? Il est impossible, inconcevable de faire une dissertation seulement avec deux parties? Ou si vous terminez l'épreuve du baccalauréat sans troisième partie, vous dites « j'ai raté, c'est catastrophique ».
Moi, j'aime bien faire trois parties parce que j'ai l'impression que c'est... équilibré, c'est pas forcément une troisième partie synthèse, ça peut être une troisième partie qui dit que la première partie, on est d'accord, on n'est peut-être pas d'accord, la deuxième, c'est un peu l'opposé de la première ou c'est un dépassement de la première, et la troisième, c'est vraiment une partie qui vient un petit peu donner l'idée absolue, enfin la dernière idée qu'on aurait donnée. Puis si on ne peut pas faire trois parties, moi je conseille aux gens, parce que moi c'est ce que je fais, deux parties mais je fais trois sous-parties et ça me permet de me rassurer. Je pense qu'on n'est pas obligé de faire trois parties, si on n'arrive pas à faire trois parties c'est pas grave, on peut faire deux parties, trois sous-parties et on peut s'en sortir.
Alors Paul, est-ce que tu peux esquisser le troisième temps de cette dissertation?
Eh bien... moi, pour justement essayer de dépasser cette difficulté, je serais allé chercher en fait la notion de liberté, justement. Parce que là, agir par devoir est nécessairement bien agir. En fait, il y a le mot agir qui est répété deux fois. Et en fait, pour agir, il faut quand même être libre, il faut avoir la capacité de le faire. Or, ben, en fait, si on pense la liberté de l'homme, ben, en fait, ça empêche de penser un devoir absolu, justement. Est-ce que vraiment on peut penser un devoir absolu avec une totale liberté de l'homme? Et donc, en gros, j'aurais tiré les conséquences, justement, de cette liberté totale de l'homme quant au devoir, et j'aurais soutenu qu'il n'existe pas de devoir absolu. Donc, on ne peut pas lier, comme le veut le sujet, nécessairement, eh bien, le devoir au bien, justement, à la morale. Bon. Qu'en gros, l'homme, il peut, au fond, suivre bien des devoirs et que tout peut être bien en soi, vous voyez. Donc, voilà, j'aurais utilisé pour ça Sartre, l'existentialisme est un humanisme, donc j'aurais développé ça. Et avec cette idée qu'au fond, bah, si on pense bien que l'homme est totalement libre, si l'homme est jeté sur terre et qu'il est condamné à être libre, en fait, il peut se livrer à n'importe quel devoir et qu'au fait, tout pourrait être bien dans l'absolu.
Ça me fait penser à ce dicton qui a été critiqué par un philosophe, peut-être que la référence te reviendra, à propos du sommeil du juste, cette idée qu'au fond, le juste, tu parlais qu'il y a la notion de justice qui apparaît ici, le juste ne peut jamais dormir sereinement. Ça rejoint cette idée-là. On n'est jamais sûr... parfaitement bien agi, il y a toujours des cas de conscience.
Parce que Kant, c'est absolument génial dans la mesure où on a un outil qui nous permet toujours de savoir quoi faire. Encore faut-il y croire. C'est encore faut-il qu'on puisse penser un tel devoir absolu. Donc, dans un monde où il n'y a plus justement de devoir absolu, où il n'y a que des conflits de valeurs, qui est le monde de la post-vérité dans lequel nous sommes, eh bien, il ne reste que la liberté de l'homme et les choix qu'il fait. Donc, en fait, l'homme se portera un devoir ou à un autre, et au fond, tout est un peu équivalent.
Voilà, c'est le mot de la fin. À votre liberté, l'absolu n'est pas de ce monde.
À la liberté recouvrée après le bac.
Alors, il restera à rédiger la conclusion, mais au fond, je crois que c'est Dorcas. Vous nous avez dit que vous rédigez la conclusion dès le début, donc elle est déjà rédigée. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir joué le jeu et d'avoir jeté de la clarté sur ce qui est susceptible de conférer de la valeur morale à nos actions. On souhaite une mention très bien à nos trois lycéennes, un 20 sur 20 à l'épreuve de philosophie et pour Paul, pas de bonnes corrections. Quant à vous, chers auditeurs, nous vous souhaitons un agréable mois de juin. Y a-t-il du mal à se faire plaisir? Eh bien, si c'est le cas, tant pis, on ne résiste pas au plaisir du rock et de la pop. On se quitte donc en musique. Salut!